Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Je m'appelle Jérémy, je suis étudiant relais égalité et aujourd'hui je suis accompagné de Liam.
Bonsoir.
De Hicham.
Salut.
Et de Meïssa. Pour parler de racisme. On va essayer de se demander si le racisme est un problème de seconde zone aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est plus réglé que d'autres discriminations? Est-ce qu'il existe toujours alors que la race n'est pas un concept scientifique? Est-ce qu'il est redevenu tabou d'en parler? Et si oui, a-t-on encore des choses à dire dessus? Et est-ce qu'en parler détermine toujours autant la vie des gens? Du coup, merci Hicham et Meïssa d'être ici ce soir pour parler de ça. Est-ce qu'on peut commencer par faire un petit tour de table pour vous présenter?
Oui, alors Meïssa, et je suis en master MEF en première année.
Okay. Du coup, c'est Hicham, je suis en deuxième année en école d'ingé, je suis étudiant étranger et je suis ERS, étudiant en relais santé.
Exact. Alors moi, je suis étudiant relais égalité et justement, nos missions sont complémentaires sur le campus. C'est comme ça qu'on s'est connus, Hicham, et c'est aussi pour ça que j'ai pensé à t'inviter. Et Meïssa, on fait nos études ensemble. Du coup, voilà, c'était assez facile aussi hein, de trouver des invités sur ce sujet comme ça. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a été aussi crucial dans la... dans ce que j'ai déterminé pour cette émission. Je me suis demandé, est-ce que des personnes comme nous, alors pour les auditeurs ne le savent pas, et puis Liam aussi, qui me regarde avec des grands yeux, on est toutes des personnes racisées dans la pièce d'enregistrement. Et on se demandait, est-ce que ça a une importance dans le fait qu'on parle de racisme ou pas? C'est un débat qu'on avait eu avec mes collègues. Est-ce que, en théorie, des personnes comme nous qui sont concernées par le racisme, on en fait tout le temps l'expérience? Et est-ce que des personnes qui, par exemple, n'en font pas forcément l'expérience par leur détermination de couleur de peau ou d'origine sociale sont plus pertinentes que nous pour en parler? Est-ce que... on peut... Alors, ça fait déjà un petit peu débat. Hein. Est-ce que vous avez des pensées par rapport à ça?
Moi, je pense que tout le monde peut parler du racisme, même si on n'est pas forcément concerné, parce que le racisme, ça concerne tout le monde. Même si on n'est pas victime, on l'observe et on en est conscient que c'est là. Du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être racisé pour parler du racisme.
Mmh.
Et pour toi, Hicham ?
Alors, moi, je partage ton opinion, Meïssa. Et je voulais faire le lien parce que si moi, je suis homme, par exemple, et je défends les droits des femmes, je pense que c'est la même situation à peu près. Je ne suis pas directement victime de sexisme, mais je combats le sexisme. Du coup, je trouve que c'est dans la même optique.
Mmh. Oui, des sujets qui ne nous touchent pas forcément en théorie peuvent nous concerner quand même. Et c'est, ça, enfin, voilà, ça apporte déjà une petite réponse personnelle sur mon opinion. Mais donc, c'est pas pour orienter tout de suite la réponse qu'on apporterait à ces questions. Mais c'est une conviction personnelle de me dire qu'il y a des sujets qui ne me touchent pas et qui pourtant me concernent. La semaine dernière, j'avais fait une émission sur le handicap. C'est un exemple parfait de sujets qui ne me touchent pas dans ma personne, mais qui pourtant, en termes de questions de société, c'est hyper important d'en parler, même si on n'est pas forcément touché, parce qu'on est concerné. Et moi, je fais une petite distinction par rapport à ça, et je ne sais pas si vous la faites aussi.
Mmh. Et oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être concerné pour être allié, en fait, au final. Enfin, c'est être allié, en fait.
Mmh. Ouais.
Bah oui, comme tout à l'heure, tout le monde devrait parler de tous les sujets. Mmh. On n'est pas obligé d'être concerné. Et d'autant plus le racisme, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Enfin, ça nous entoure. Mmh. Et même si ça ne nous concerne pas, ça concerne les gens qui sont autour de nous. Et c'est bien aussi de donner son avis, si, même si on ne se sent pas forcément concerné, de dire bah, « je ne suis pas d'accord avec ça » parce que ça rejette des gens dans la société.
Mmh.
Voilà.
Mmh. Ce n'est pas qu'un problème d'identité personnelle, quoi. C'est un problème qui touche à l'organisation de la société et qui vraiment en fait nous dit plus en tant nous raconte plus sur nous en tant que civilisation qu'en tant que personne individuelle, quoi, je trouve.
Mais je dirais aussi pour moi, ne pas se sentir concerné par ces sujets là ça fait partie aussi du problème, quoi. De se dire je suis pas concerné, donc je m'en intéresse pas, quoi.
Ok, est-ce que tu peux un peu développer sur ça m'intéresse beaucoup.
Bah, le fait de pas s'y intéresser, ben, je ne saurais pas trop comment développer, mmh. Mais c'est un peu... Enfin, être indifférent face à la situation, quoi.
Mmh.
Enfin, être indifférent, et du coup, ça fait partie du problème. De ne pas, pas réagir, de ne pas s'informer, de ne pas en parler, etc.
Mmh. Donc, ouais, ne pas être neutre, ça n'existerait pas, quoi, en réalité,
ouais,
c'est ça.
Ouais, je dirais ça, ouais.
Ouais. Ok, je vois très bien. Pour me préparer un peu à l'émission, j'avais écouté plusieurs podcasts et... dont un qui parlait des expériences de racisme à l'école. Donc, d'ailleurs, ça va être un petit peu la ligne d'orientation de ce podcast-là. J'ai beaucoup de ressources par rapport à l'école, puisque, comme Meïssa, donc, j'ai fait des études pour devenir professeur des écoles. Et dans un de ces podcasts, il parlait de racisme avec un S au pluriel. Et bah, alors, avant même de donner l'explication de pourquoi ils utilisaient ce terme, est-ce que pour vous, ça a un sens de définir les racismes aujourd'hui, d'en parler au pluriel.
Bah, moi, comment je visualise le racisme avec un S, c'est plutôt genre, est-ce que c'est du racisme individuel ? Moi, en tant que personne, je vis du racisme. Enfin, on me dit, bah voilà, t'es noir, ça me pose problème, donc individuellement. Ou est-ce que je suis au sein d'un groupe et on rejette tout ce groupe-là ?
Mmh.
Ou même, est-ce que moi, en tant que personne, je suis alliée à un groupe qui est victime de racisme, et est-ce que du coup ça serait un peu un stéréotype où je me dis, bah, vu que je fais partie de ce groupe-là, je ne suis pas capable de faire ça.
Mmh.
C'est intériorisé.
Ok.
Voilà.
Ok. Et donc le lien avec le racisme au pluriel, je
bah,
l'ai pas...
Est-ce que moi je le vis tout seul ? Est-ce que je le vis... C'est plutôt comment je le vis ? Est-ce que je le vis moi ? Est-ce que je le vis en groupe ?
Mmh.
Ou est-ce que moi-même je me le fais vivre à moi-même intérieurement ?
Ok. Et donc, qu'on parlerait des racismes, ça prendrait pas la même forme, enfin, ça définirait pas la même expérience,
ouais.
C'est ça, pour toi ?
Ouais.
Ok, je vois. Est-ce que t'as des exemples ?
Bah, je pense que quand tu le vis tout seul, ça peut être juste vécu comme une insulte, comme on pourrait insulter quelqu'un dans la rue, on peut te dire, bah... je n'ai pas envie de donner d'exemple,
oui.
Mais voilà.
Il y a pas de souci.
Et après, si c'est plus au sein d'un groupe, bah, tu vas avoir un peu le fait d'être rejeté par rapport à ta communauté et ça va pas être perçu comme une simple insulte, mais plus on veut pas de moi dans la société. Mmh. Et si tu l'intériorises toi, bah c'est carrément, tu sens que tu fais partie de cette, enfin ce groupe-là et que du coup bah les autres veulent pas de toi, mais toi aussi tu fais pas, enfin tu véhicules ce racisme parce que tu l'as envers toi-même vu que tu appartiens à ce groupe-là.
Ok.
C'est comme ça que je visualise. Ouais. Mais je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire ou pas.
Ouais. Mais peut-être que c'est pas forcément hyper important ce qu'il voulait dire, mais ce que toi tu en retires aussi, c'est et ce que moi je comprends de ce que tu dis, c'est que ça prend pas des formes qui sont toutes les mêmes. Ouais. Donc qu'il y aurait plusieurs, enfin que le racisme c'est un concept qui définit des expériences de discrimination particulières, mais que ça a pas tout le temps la même forme et même presque jamais la même forme, on pourrait dire. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne?
Ouais, c'est ça.
Et du coup, moi, je pense qu'on doit parler de racisme au pluriel aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas forcément toutes les situations, on a plusieurs contextes. Et ça va dépendre de la personne, du groupe ethnique, qu'on va parler de plusieurs racismes et pas d'un seul racisme uniquement.
Mm-hmm. Ok. Donc, plusieurs types de...
De discrimination. Enfin, c'est une discrimination, mais... ça peut prendre plusieurs formes.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et quelle forme Alors, parce que c'est marrant, je vois qu'il y a beaucoup de non-dits dans ça. On parle de plusieurs formes de racisme, et puis la plus apparente qu'on pourrait avoir en tête, ce serait des insultes ou des remarques qui seraient explicitement racistes, qu'on arriverait totalement à identifier. Est-ce qu'il y a il y a d'autres formes qui seraient moins faciles à identifier selon vous?
Moi, je dirais l'accès au logement, par exemple. Mmh. L'accès au travail aussi. L'accès au crédit bancaire. Et d'autres formes de discrimination selon, par exemple, le prénom de la personne. Mmh. Et donc, on va construire des stéréotypes sur cette personne-ci.
Ok. En fonction de son prénom, de la consonance. Prénom,
sa couleur de peau, peu importe.
Ouais.
Ouais, ça impacte beaucoup de spectres larges, en fait. Mm. Enfin, un spectre hyper large.
Mm. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, Hichem, parce que des fois, il y a des gens qui sont carrément obligés de ne pas mettre de photos sur leur CV pour ne pas être rejetés, ou qui arrangent un peu leur prénom, leur nom, pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et là, ça va pas être des insultes, ça va juste être des stéréotypes qu'on peut avoir sur une origine ou une couleur de peau. Donc voilà, c'est pas des insultes, c'est une autre manière de racisme.
Ouais, une autre forme qui même ne prendrait pas l'apparence de racisme selon une certaine vision, quoi. Pour moi, il y a pas mal de personnes qui ne voient le racisme que d'une certaine façon, qui serait haineuse ou qui serait explicite et in your face, quoi, qui t'attaque directement, quoi. Et beaucoup d'autres expériences beaucoup plus muettes, beaucoup plus invisibles, qui ne seraient pas reconnues comme telles.
Oui, mais comme le logement, enfin tout ce qui est logement, etc., pas mettre sa photo sur un CV, enfin c'est pas des insultes, mais c'est quand même violent, en vrai. C'est quand même des violences, quoi. Et ouais, c'est plus... Enfin, peut-être qu'on n'y pense pas souvent. Je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui y pensent pas.
Ouais.
Je pense que c'est encore pire de pas devoir mettre sa photo parce que ça veut dire que tu intériorises le racisme et que tu t'adaptes en fonction du retour que vont avoir les gens. Enfin, après, j'en ai pas été victime, donc je saurais pas dire qu'est-ce qui est pire, mais je pense qu'une insulte, c'est une fois. Là, carrément, toi, tu intériorises que tu vas subir de la du racisme, de la discrimination. Et du coup, tu fais en fonction.
Ouais, tu te prépares en amont, quoi, pour pas avoir cette discrimination-là, ouais.
Je vois totalement ce que tu veux dire. Parce que, allez, je vais partager mon expérience perso. C'est mon cas, moi, je mets pas de photos sur mon CV. J'ai pas envie qu'il y ait ce retour-là Alors moi, j'allais dire la chance, et tu vois, bah, c'est encore un mauvais terme. La chance d'avoir un prénom à consonance française. Mais du coup, j'utilise ça presque comme une triche à mon avantage. Je mets mon prénom, mais je mets pas ma photo. Du coup, ça me donne des avantages sur mon CV. Et c'est vrai, tu vois, c'est une question d'intériorisation je m'attends à ce qu'il y ait la possibilité d'avoir une réponse négative en fonction de ma couleur de peau. Mais c'est pas Enfin voilà, c'est vrai que c'est toute une question qui est beaucoup plus large que les insultes, je pense, dont on parle, dont on parle maintenant, quoi. En lien avec ça, donc, je voudrais qu'on puisse réagir un petit peu sur une actualité qui a fait un petit peu jaser en 2017. Et alors, j'espère qu'on ne va pas se mettre tout le ministère de l'Éducation à dos, mais ça parle du ministre de l'Éducation, de l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. En 2017, le syndicat Sud-Éducation 93 a organisé un stage syndical en non-mixité raciale, justement, à destination des enseignants, sur le thème de l'antiracisme à l'école. Et ce stage-là avait pour objectif de faciliter la parole des personnes racisées, selon le syndicat. Et le ministre de l'Éducation, lui, à l'époque, a condamné ce stage-là. Il avait posté, je crois que c'était sur Twitter, « Je condamne avec fermeté le projet d'une réunion syndicale triant les membres sur la base de leur origine. » Je laisse un petit silence. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Comment on peut réagir à ça?
Moi, je dirais, ce qu'il dit en soi, si on se base sur les faits au niveau des lois, je pense que si on cherche bien, il doit avoir peut-être raison. Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, le fait d'avoir regroupé ces personnes-là parce qu'elles étaient racisées, ça leur permettait de parler entre elles de ce qu'elles avaient pu vivre et pas avoir ce biais du fait qu'il y ait d'autres personnes autour qui n'aient pas vécu et se dire « je vais être jugée si je dis ça ». Donc, je pense que l'association, elle a bien fait de faire ça. Mais je comprends aussi le point de vue extérieur de Blanquer, qui lui dit que du coup, on fait un groupe en fonction de la race, donc pour lui, c'est de la discrimination. Mais si je dois donner mon avis, je suis du côté de l'association.
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais ça. Et puis, pour moi, c'est une question qui fait polémique et qui le fait bien, pour le coup, cette actualité. Alors moi, j'ai la conviction, un peu justement, par rapport aux questions que j'ai posées au début du podcast, qu'on considère les problèmes de racisme comme étant vraiment presque réglés dans la société et que ça devient des problèmes d'égalité. Et c'est pour ça que les stages en non-mixité raciale, ça pose problème au niveau du gouvernement qui doit défendre un principe d'égalité pour tous les citoyens et on n'a pas le droit de discriminer les gens par rapport à leur appartenance ethnique, à leur appartenance, leur origine sociale, quoi. Mais par exemple, le gouvernement a une politique d'égalité femmes-hommes qui était une des priorités du quinquennat. Et il existe, par exemple, des stages en non-mixité genrée pour les mathématiques, parce que les résultats des sciences ont bien prouvé que les filles ont des résultats qui sont inférieurs en mathématiques, et ça, dès le CP, ça arrive très vite, et du coup, il y a un gros problème en termes de mathématiques et de genre. Et il existe des stages au lycée qui ont pour but, justement, de redonner confiance aux filles dans leur performance en mathématiques et dans leurs compétences en mathématiques. Et là, ça pose moins problème. Alors que ça fonctionne sur le même type, une discrimination liée à un critère qui est d'ailleurs qui est prévu par la loi. Il y a 25, 26, 27 critères de discrimination qui sont interdits dans la loi. Et ça pose moins problème. Et du coup, c'est ça qui me faisait un petit peu réfléchir par rapport à cette actualité, c'est que pourquoi, quand on parle de non-mixité raciale, ça dérange plus?
Pour moi, c'est un sujet compliqué, oui. Mais je pense que ça crée un safe space pour les personnes victimes de racisme, quand il n'y a pas d'autres personnes qui ne subissent pas forcément le racisme. Mmh. Et ça le laisse plus de liberté d'expression.
Du coup, pour revenir sur ce que tu disais, moi je me souviens à l'école, quand on faisait des cours sur la sexualité, ils nous séparaient aussi, ils mettaient les filles d'un côté et les garçons de l'autre, pour qu'on ait cette liberté d'expression face aux autres. Et je pense que l'égalité, c'est quelque chose que tout le monde a bien en tête. Et tout le monde est d'accord pour que les femmes soient égales aux hommes. Donc, c'est OK dans la société. Donc, ça ne dérange pas du fait qu'on fasse des groupes femmes et des groupes hommes. Mm-hmm. Mais le racisme, c'est très compliqué. Je trouve que c'est un sujet assez touchy. Du coup, les gens se disent « Ah mais non, on ne peut pas faire ça, sinon c'est directement du racisme. » Alors que là, en l'occurrence, ils ne sont pas concernés et les personnes qui sont concernées, elles sont OK pour faire ça. Ouais. Donc, on n'a pas tellement notre mot à dire sur ça. Puis surtout, je crois que c'était vraiment une toute petite partie du stage, donc ça n'allait pas impacter le stage en entier.
OK.
Et surtout que là, dans ce cadre-là, la non-mixité raciale, du coup, a lieu. Ils ont besoin de cet espace-là, justement, parce qu'il y a du racisme, quoi. Du coup, c'est complexe.
Oui, c'est une question qui demande à réflexion et pas une réponse qui serait déjà prédéfinie. Ouais. Et moi, je suis totalement d'accord. Et cette idée de safe space, elle est très, très, très... elle est très présente dans les réflexions des groupes de minorités. Et par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBTQIA+, qui parlent de safe space, parce que c'est très nécessaire pour eux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre actualité, parce que j'avais lu un autre livre sur le sujet de l'homophobie à l'école. J'avais découvert que dans les années 80, à New York, donc c'est dans le contexte des États-Unis, qui est un contexte peut-être assez différent, peut-être assez proche de la France, je n'en sais rien, mais qu'un lycée pour les jeunes homosexuels avait été créé dans le but justement de leur accorder un safe space, parce que c'était des jeunes qui, à l'époque et même encore aujourd'hui, c'est très triste de le dire, mais des jeunes qui se font rejeter de leur famille, qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas de safe space, qui n'ont pas de figure auxquelles s'attacher. Et donc ça crée beaucoup de violence vraiment psychique, quoi. Des personnes qui ont du mal à vivre après, parce qu'il y a ce manque affectif, quoi, qui est créé. Et il y avait les mêmes questionnements en termes de non-mixité. On se disait, mais bon, un lycée pour les homosexuels, c'est quoi l'éducation homosexuelle, pourquoi c'est différent est-ce qu'il y a des maths pour les homosexuels, des maths pour les hétéros, voilà, il y avait toutes ces... des réponses quelquefois réactionnaires, pas mal de réponses réactionnaires, et puis aussi des questionnements qui étaient pertinents de se demander qu'est-ce que la non-mixité ça fait en réalité, quoi. Et est-ce qu'on pourrait pas se demander si on veut tendre vers l'égalité, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ces espaces qui sont peut-être discriminants à un moment, mais qui le sont pour arriver à cette étape d'égalité? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour répondre à ce que tu as dit, je pense que dans une société idéale, ça serait cool de ne pas avoir à le faire. Mais dans la société dans laquelle on est, où on est victime de beaucoup de discrimination, je ne trouve pas ça si mal de le faire, parce que ça peut aider des gens qui sont victimes de cette discrimination à se sentir plus acceptés et plus à l'aise avec les gens autour d'eux. Du coup, ce n'est pas idéal, mais je trouve que c'est une bonne solution dans la société dans laquelle on vit.
Je suis d'accord.
Eh ben, merci pour. On va considérer ça comme une petite clôture du débat et on peut passer à notre première animation.
C'est parti.
Ouais. J'ai préparé pour vous un petit quiz. Ce sont des données que j'ai trouvées à la fois sur le site du gouvernement et puis dans un livre qui s'appelle Sociologie de l'éducation de Marie Durubella, qui est très 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 en vogue pour les masteriens MEF, quoi. On a vu ça au premier semestre, donc Mélissa, c'est un petit contrôle pour toi. Non, je blague. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont des questions et des statistiques qui touchent majoritairement l'école.
Okay.
Pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, première question. Combien d'actes racistes et antisémites ont été recensés à l'école publique lors de l'année scolaire 2023-2024? Est-ce que c'était moins de 2000, entre 2000 et 3000, entre 3000 et 4000, ou plus de 4000?
On vous laisse réfléchir.
Entre 3000 et 4000?
Entre 3000 et 4000, tu dis, Mélissa.
Je veux pas que ça soit plus de 4000. Du coup, entre 3000 et 4000.
Entre 3000 et 4000, c'est la bonne réponse.
Bravo.
Mais alors quand même, plus de 3600, selon les chiffres du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Ce qui fait, en fait, ce qui fait plus que nécessaire, quoi. Donc, dès qu'il y en a un seul, c'est C'est pour grave, moi plus ouais. que nécessaire. Et c'est pour ça qu'on essaye de lutter contre ça. Moi, c'est une résonance directe. Cette semaine, la semaine dernière, bah voilà, quand je dis c'est un problème réglé, pour moi, ça l'est pas. On a eu des cas dans une école que je mentionnerai pas, dans un lieu que je mentionnerai pas, pour mettre personne en cause, mais des propos tenus par des élèves à la cantine, lundi dernier, à un élève qui était noir. Et je vais pas répéter, mais c'est des insultes et des propos chargés racialement. Donc c'est pas quelque chose qui disparaît ou qui n'apparaît pas de façon systématique, quoi, dans les familles, à l'école. Et voilà, je pousse ma colère contre ça aujourd'hui. Je sais pas si toi, Mélissa, tu as eu des...
Non, moi,
des expériences à l'école.
À l'école, j'en ai pas eu. Mais après, dans la société, je sais que beaucoup le font passer sur le ton de l'humour, mais souvent, c'est pas très OK de... Enfin, il y a plein de blagues, je trouve, des fois, qui sont très limites, mais qu'on a juste normalisées dans la société.
Et on dit, c'est pour rigoler.
Voilà.
Ouais. Mm-hmm. Des blagues qui seraient... qui sont discriminantes et qui sont... violentes.
Mm. Bah, ouais. C'est des trucs qu'on a normalisés, genre que tout le monde dit, et on s'est dit, OK, c'est normal de dire ça, alors que ça ne l'est pas. Je vais pas citer, parce que sinon, il faut que je cite pour tout le monde, mais...
Mm. Donc, c'est quelque chose qui est presque constitutif de comment on agit. En fait, ça nous détermine déjà avant même que...
Avant même qu'on ait... Ouais. Ouais.
Et on s'en rend pas forcément compte, c'est ça. Ça, c'est ma conviction aussi, que c'est comme ça. Et le problème est justement d'en faire rendre compte. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. On passe à la prochaine question.
C'est parti.
Tu veux la faire, Liam ?
Ouais, allez. Très bien. Alors, deuxième question. Alors, quelle est la variable qui détermine le plus les parcours scolaires des enfants, leur réussite à l'école primaire et donc qui crée le plus d'inégalités scolaires ? Selon Durubella. Alors, le nombre de frères et sœurs, l'origine migratoire de la famille, le style d'éducation des parents ou l'origine socioculturelle de la famille ?
J'ai l'impression d'être au QCM de sociaux. Dernière question. Dernière réponse. Origine socioculturelle, je dirais.
Pour moi aussi, ce sera la dernière réponse.
Ok, c'est bien ça.
Ouais. Est-ce que vous aviez des idées de pourquoi vous avez répondu cette réponse-là ?
Moi, je suis allée en cours de sociaux, quoi.
Ouais, mais ça, tu triches.
Oh, pour moi, c'est dû à l'élitisme, quoi. Tout simplement.
Ok. Un élitisme culturel et social. Les personnes qui ont plus de
réussite, ils ont plus de chances d'avoir des parents qui ont fait un parcours très remarquable. Alors, par exemple, j'ai vu sur un post sur les réseaux que si ton papa, par exemple, a fait l'X, l'école polytechnique, ça multiplie fois 300 les chances que toi aussi tu vas faire l'X. Du coup, voilà.
Ouais. C'est une triste réalité, mais qui existe, quoi. Et effectivement, alors, je tiens à préciser que du coup, toutes les variables qu'on a mentionnées, à la fois le nombre de frères et sœurs, l'origine migratoire de la famille et le style d'éducation des parents, ça a une influence sur le parcours scolaire des enfants. Mais néanmoins, c'est dès qu'on contrôle l'origine socioculturelle, c'est-à-dire dès qu'on prend en compte l'origine socioculturelle, toutes ces autres variables ont beaucoup moins d'importance. C'est surtout l'origine socioculturelle, donc le capital culturel, comme dirait... on ne mentionne pas, on n'a plus envie d'en parler de lui. Voilà. l'origine... voilà, en fait, aussi, il y a tout un amalgame qui peut se faire, parce que, dans la réalité, certaines zones urbaines concentrent à la fois les personnes qui sont défavorisées socialement, donc qui ont moins de capital culturel, et les personnes qui sont issues de la migration. Donc, en fait, il y a beaucoup d'amalgames qui subsistent et en fait, qui sont créés par des stéréotypes qui sont assez vraiment tenaces entre une variable et une autre, sans qu'on s'en rende forcément compte. Et c'est tout là mon propos depuis le début. On ne se rend pas forcément compte de ces choses-là. Et voilà. Mais c'est surtout l'origine socioculturelle de la famille. C'est-à-dire, si papa et maman vont au cinéma, Je dis papa et maman, ça y est, tu vois, je suis hétéronormatif. Non, si les parents vont au cinéma, vont au musée, etc. Tout ça, ça a une influence sur les parcours des enfants. Et donc, sur leur parcours à l'école primaire, leur parcours au collège, leur parcours au lycée, leur orientation dans les études supérieures, ensuite, après. Et donc, c'est des choses minimes et sur lesquelles, nous, on ne peut pas forcément avoir d'impact. Mais dès qu'on s'en rend compte, c'est assez... un petit peu désolant, je trouve, de voir ça. Mais nous, on peut avoir une influence sur beaucoup d'autres choses, donc il faut qu'on reste optimiste et positif. Je fais la dernière question, ça te va ? Allez. Alors, dernière question. Alors, pour mettre le contexte, nous, on est au gouvernement, au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, donc, on a un vademécum qui s'appelle « Agir contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine ». C'est-à-dire, en gros, on a un guide pour comment réagir en cas de situation de racisme et qui recense plusieurs situations. Donc, je vais vous en présenter quatre et votre objectif, c'est de nous dire laquelle n'est pas présente dans le vademécum. Alors, insultes et injures racistes et antisémites. Actes racistes et antisémites au cours d'une situation d'enseignement. Inscriptions racistes et antisémites. Fausses accusations de racisme contre un personnel.
J'ai pas compris la troisième.
La troisième, c'est inscription raciste et antisémite. Donc des tags qui seraient haineux sur les murs, dans les toilettes, etc.
Bah alors là, pour moi, ils sont censés tous y être, mais...
Ah, c'est fou, j'aurais cru vous piéger, en fait, même pas. Non, mais c'est une bonne réponse. Toutes ces situations sont présentes dans le vademécum. Et bon, alors, les situations qui sont décrites sont les suivantes. Il y a situation de violence à caractère raciste et antisémite, signes et gestes racistes et antisémites, insultes et injures racistes et antisémites, discours de haine raciste et antisémite, inscription raciste et antisémite, situation de harcèlement à caractère raciste et antisémite, actes racistes et antisémites au cours de situations d'enseignement, propos racistes et antisémites tenus par des enseignants, actes racistes et antisémites et discrimination subie par des élèves en milieu professionnel, et fausses accusations de racisme contre un personnel. Qu'est-ce que vous pensez du fait de décrire autant de situations que ça ?
Bah, c'est inquiétant qu'on doive citer tout ça. Enfin, suffirait de dire racisme et ça devrait être pris en compte. Le fait de devoir citer, ça veut dire que si jamais il y a une action qui n'est pas citée, on ne la prend pas en compte. Ou du moins, on ne sait pas la gérer. Enfin, je ne sais pas. Enfin, pour moi, à partir du moment où il y a du racisme, ça devrait être géré. On ne devrait pas avoir un papier qui nous dit « si il y a ça, il faut faire ça ». Enfin, je ne sais pas.
Ouais.
Pour moi, c'est assez révélateur de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit détailler vraiment ce qu'il faut faire, comment identifier la forme de racisme pour dire, voilà, c'est vraiment du racisme, quoi.
Ok, parce que c'est pas si évident que ça, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Non, mais très bien. C'est vrai que moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est cool qu'on ait autant de ressources. Et après, je me suis dit, attends. Et oui, mais du coup, c'est ton argument, mais c'est qui m'est venu tout de suite après. Je me dis, est-ce qu'on, enfin, pourquoi ça coule pas de source, quoi.
Ouais.
Pourquoi ça coule pas de source? Et ça, c'est une question qui est encore dans l'air, pour moi. On va faire une petite pause musicale et puis ensuite on revient avec d'autres choses à vous dire.
Et nous sommes toujours sur l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et il est l'heure de vous poser une petite question pour un débat, tout simplement. Cette question est la suivante. Est-ce que l'islamophobie est une forme de racisme ?
Pour moi, oui. C'est bel et bien une forme de racisme. Parce que on ne s'attaque pas seulement à la religion, mais aussi on peut le voir à travers la haine envers des individus qui sont d'habitude issus de l'immigration. Pour moi, c'est bien une forme de racisme.
Alors moi, je suis pas d'accord avec Hichem. Je suis d'accord si on mélange la religion et l'origine. Dans ce cas-là, c'est du racisme parce qu'on a l'origine. Mais si on prend le terme islamophobie, ça concerne une religion, et le racisme, ça concerne une race. Et du coup, pour moi, l'islamophobie, c'est de la discrimination, mais c'est pas du racisme, si on prend les termes tels quels. Après, c'est vrai que souvent, dans la société, on mélange les musulmans, enfin, tout. Et du coup, là, ça devient du racisme, parce qu'on sait pas faire la différence entre tout.
Mmh. Ouais, ça, c'est dans le cas où on prend les termes littéralement, quoi.
Ouais.
Ouais, ouais, et donc là, il y aurait une confusion en fait entre plusieurs termes, et c'est peut-être ça qui créerait le racisme au final. Genre de tout grouper tout le monde dans la même catégorie pour toi. Mmh. Mmh, je vois. Bah, moi, ça me fait penser à. Enfin, toute forme de discrimination pour moi, ça fonctionne un petit peu comme du racisme. Et je vais m'expliquer un petit peu. Parce que ça y est, je lâche une bombe. Bah mais quand on parle de racisme. On parle sans le vouloir forcément du concept de race qui n'a pas une existence biologique, qui n'a pas une existence. En fait, c'est un construit. On se dit, il y a un groupe de gens qui sont catégorisés par une caractéristique. Historiquement, c'était une caractéristique ethnique, par exemple. Mais en fait, c'est un construit social. C'est quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est un concept qui n'a pas d'existence métaphysique, quoi, si on peut dire. Donc quand on parle de racisme, c'est comme si c'était un truc théorique, quoi. C'est une expérience de discrimination qu'on impose à un groupe qu'on a caractérisé par telle ou telle caractéristique, quoi. Donc pour moi, même on pourrait parler en fait, si on parle de race, on peut parler de n'importe quel groupe, on peut parler des femmes, on peut parler des personnes homosexuelles, on peut parler de tout le monde. Je sais,
je vois ce que tu veux dire.
Voilà, c'est assez. C'est peut-être mon opinion personnelle qui me fait penser comme ça. Mais je pense que, en fait, de réfléchir au racisme en termes, en fait, presque technique, presque théorique, ça permet de se rendre compte que c'est comme une pièce de puzzle qu'on pourrait appliquer un peu partout, quoi. Un joker. C'est le joker dans le jeu de cartes. Ça permet de prendre aussi un peu compte de se rendre compte des mécanismes qui existent dans plusieurs types de discrimination. Et pour moi, dans l'islamophobie, la plupart du temps, ça fonctionne vraiment pas mal comme une forme de racisme. Il y a beaucoup d'expériences qui se ramènent à ramener les gens à une origine, à ramener les gens à une détermination presque monolithique, et qui fonctionne pour moi comme on pourrait avoir du racisme envers les personnes noires, envers les personnes asiatiques, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, je comprends ton point de vue, parce que tu dis que race, c'est pas fondé, et que du coup on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Mais en soi, si on considère ça comme la discrimination, c'est pas OK non plus. Enfin, pour moi, la discrimination, c'est en haut. Et en dessous, t'as le racisme, l'islamophobie et tout plein de choses. Mmh. Mais on n'est pas forcément obligé de les combiner tous les deux. Parce qu'en soi, même si on perçoit la même chose, comme tu l'expliques, la même discrimination envers les deux groupes, pour moi, on n'est pas obligé de rallier l'islamophobie dans le racisme, c'est juste pas OK l'un et pas OK l'autre, mais pas obligé de mettre le même nom sur les deux.
Je vois. Eh ben, ouais, c'est une question qui demande à réfléchir encore et encore, et je pense que les débats sont jamais clos sur ça. Et... Mais en tout cas, merci d'avoir un peu apporté une réponse à cette question. Est-ce qu'on peut passer à une autre petite partie de notre podcast qui va être un petit peu plus cool? On a parlé de choses qui étaient assez démoralisantes depuis le début. Mais j'aimerais quand même qu'on accorde une partie de notre podcast à parler de choses qui soient inspirantes. Et pour ça, merci à Mélissa. Parce que c'est elle qui a trouvé la citation que peut-être tu voudrais nous lire, en vrai, si ça te dit, Mélissa.
Je n'ai pas son titre. Alors, Martin Luther King, dans les années 1960, la justice est indivisible. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier.
Qu'est-ce qui t'a...
Bah, je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est un peu ce qu'on disait au début, même si ça ne nous regarde pas, ça nous regarde. Parce qu'on fait tous partie d'une origine, d'une culture, d'un... peut-être d'une religion ou non. Et si aujourd'hui c'est pas nous qu'on attaque, demain ça peut être nous qu'on attaque. J'avais mis un exemple, par exemple, les Italiens ils sont arrivés en France comme une vague migratoire. Et puis après, ça a été les Maghrébins, et après, ça a été les Subsahariens. Et à chaque fois, il y a eu la même chose. Ils sont pauvres, ils viennent voler le travail, et ils sont violents, il faut les mettre à l'écart. Et quand les Maghrébins sont arrivés, j'espère au fond de moi que les Italiens ont réagi, parce que avant les Maghrébins, c'était eux. Et du coup, cette phrase, elle me fait dire un peu, bah, aujourd'hui, c'est pas moi, mais ça pourrait être moi. Et peut-être que c'était moi, et du coup, il faut que j'intervienne pour les autres. Parce que c'est pas parce que c'est pas moi aujourd'hui que le reste autour de moi ne m'intéresse pas, et je trouve pas ça important de combattre.
Ouais.
Je sais pas si je suis claire.
Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Et moi, ça me fait penser à peut-être un petit peu autre chose, mais qui revient un peu au débat qu'on a eu avant, mais c'est que c'est pas... au final, c'est même pas important... l'origine ethnique du groupe dont on parle, là. On parle des Italiens, on parle des Maghrébins, etc. Il y aura toujours un groupe à discriminer pour des raisons X ou Y. Et donc, c'est... En fait, quand je parlais de conception un peu théorique et technique du racisme, c'est que ça s'applique juste dans des situations différentes à des groupes différents. Et que ça s'applique un peu de la même façon, quoi.
Ouais, c'est la même mécanique à chaque fois.
C'est la même mécanique, ouais. Ouais. Merci d'utiliser ce terme. Je cherchais ça depuis tout à l'heure, c'est vrai.
Bah, parce que... Dans la société, on a beaucoup de tendance à faire ça. Dès qu'il y a un problème, il faut trouver un responsable. Et du coup, c'est souvent là que vient le racisme, parce qu'on se dit, bah, c'est de leur faute, il faut bien mettre la faute sur quelqu'un. Et du coup, bah, ça arrive sur la dernière vague... Enfin, la dernière vague d'immigration, ou le dernier problème qui a été causé dans la société, on dit, bah, c'est eux.
Ok, comme des boucs émissaires, quoi,
un peu. Ouais, bah, c'est ça, non?
Ouais.
Enfin, c'est ça qui se passe aujourd'hui.
Mmh. Ouais. Assez triste, encore une fois. Je pensais qu'on allait pas repartir sur la positive, Mélissa. Mais non, c'est très bien. En tout cas, moi, ça me motive un peu, cette citation. Je trouve qu'elle est belle. Parce qu'elle est claire dans ce qu'elle veut dire. Quand il dit une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier, c'est partout. C'est que, à un niveau moral, on ne peut pas se dédouaner de s'indigner pour quelque chose qui est commis contre... Là, je vais peut-être utiliser des termes qui parlent pas forcément à tout le monde, mais entre nos frères et nos sœurs, quoi, sur la planète. S'il y a quelque chose qui ne nous conviendrait pas à nous dans une situation donnée, pourquoi on devrait accepter qu'elle convienne à une autre personne, même si elle est loin de nous, elle est à l'autre bout du monde, même si elle est juste à côté de nous dans la rue? Qu'est-ce qui fait qu'on se dédouane de cette responsabilité-là?
Moi, je trouve ça très vrai ce que tu dis, mais ça marche outre le racisme, ça marche dans tout plein de choses. Ça marche dans les guerres, ça marche dans le handicap, ça marche dans la pauvreté, enfin, dans tout, quoi. C'est pas parce que ça me concerne, enfin, pas actuellement, que je dois pas ouvrir les yeux et me dire que bah, j'aimerais pas vivre ça, donc faut aider autour de moi, quoi.
Dec. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la suite? Non. Eh ben, très bien. Je propose que... Voilà, on arrive à en 45 minutes presque bientôt. Donc on va essayer de clôturer un petit peu rapidement. Enfin, peut-être pas rapidement, non, mais on va clôturer notre émission. On a préparé pour vous, auditrices et auditeurs, la lecture d'un poème de Jacques Prévert que j'affectionne particulièrement. C'est un de mes poètes préférés. Et c'est un poème qu'il a écrit en 1951, qui est présent dans son recueil Grand Bal du Printemps, et qui parle aussi d'espoir et de fraternité, d'adelphité, pour être plus correct. Donc je vous propose la lecture à quatre voix du poème Étranges étrangers. Étranges étrangers, kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays lointains, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumiant de la porte des Saint-Ouen.
Apatrides d'Aubervilliers, brûleurs de grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polaques du marais, du temple des rosiers.
Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre.
La liberté des autres, esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer, où peu vous vous baignez, esclave noir de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vous. Vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter ou pas cadencer la prise de la Bastille le 14 juillet.
Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé. Enfant indo-chinois, jongleur aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié.
Enfant trop tôt grandi et si vite en allé, qui dormait aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières.
On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos.
Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous mourrez.
Timing parfait, avec la musique. Je suis si fier de nous.
Pas mal cette lecture.
Exact. Et je pense que, est-ce que vous la découvrez aujourd'hui, cette lecture, ce poème?
Moi oui.
Moi ouais. Ah, oui aussi.
Oui, moi aussi.
Ouais. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Quel effet ça vous donne de l'avoir lu à quatre voix?
C'est intéressant. Mm-hmm. On peut voir qu'il y a plusieurs groupes qui sont victimes de racisme, qui sont mentionnés dans ce poème. Mm-hmm. Je trouve que ça ajoute du charme. Mm-hmm.
Et puis le fait aussi qu'on ait lu à quatre aussi, je trouve que ça colle bien aussi.
Mmh. Mmh. Ça colle bien avec l'esprit du poème, tu veux dire?
Ouais. Ouais. Ouais, je trouve, ouais. Mmh. Mmh.
Ouais. Bah, du coup, vu que vous l'avez lu, j'ai écouté un peu en même temps. Et je trouve que personne n'a été oublié, tout le monde a été cité plus ou moins. Et le fait de l'écrire de cette manière-là, je trouve que ça finit comme tu voulais, un peu positivement. Mmh. Ça rend le racisme ou la discrimination moins violente, et c'est dit avec des beaux mots qui le rend un peu moins grave.
Ouais, mais t'as vu ça, c'est ouais. Quelque chose que je trouve impressionnant avec Jacques Prévert, c'est qu'il est très 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 doué avec ses petits jeux de sur les sons, quoi. Et moi ça me met du baume au cœur de lire ça et de voir qu'on n'est pas seul dans ce combat de société, voilà. Et effectivement, oui, voilà, le fait de lire à quatre, comme tu as dit, Liam, moi, ça m'a aussi paru pertinent par rapport au poème, de se serrer les coudes, de se prendre la main. Voilà. On fait une dernière petite pause musicale et ensuite on vous retrouve pour clôturer cette émission.
Mmh.
vous êtes bien sur Radio Campus 90.8. On va clôturer l'émission sur le racisme. Avant de vous laisser, je voulais finir avec une citation tirée du journal d'Anne Frank. L'entrée du mardi 7 mars 1944, l'extrait de la fin de ces notes de ce jour-là, parce que je trouve que ça va nous laisser sur une note d'espoir par rapport à tout ce dont on a parlé. Elle dit « Je trouve que dans n'importe quel chagrin, il subsiste quelque chose de beau. Si on le regarde, on est frappé par la présence d'une joie de plus en plus forte et l'on retrouve soi-même son équilibre. Et qui est heureux rendra heureux les autres aussi. Qui a courage et confiance ne se laissera jamais sombrer dans la détresse. Bien à toi, Anne. »
Et on arrive à la fin de cette émission et je vais d'abord remercier Zoé à la technique. Merci. Et merci à Hicham, à Mélissa d'être venue pour cette émission.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Merci à Jérémy pour cette émission.
Mais merci à toi, Liam. C'était trop cool de l'animer avec
c'était
toi.
C'était trop cool. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine apérophonie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et bonne soirée.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !